Parlons sport sur RTVFM.
RTVFM.
Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue sur RTVFM, la radio qui parle du sport le lundi soir, avec ma coéquipière du lundi soir. Salut Valérie.
Salut Jean-Yves, bonjour à tous et à toutes.
Théo, notre tech favori.
Salut Jean-Yves.
Notre invité du soir, Pascal Vassé, vous le connaissez, on l'a déjà reçu il y a quelques mois, en début de saison. On a souhaité retrouver Pascal ce soir parce que la dernière fois, on avait parlé de la Nationale 2 féminine. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler avec lui de tout ce qui est autour de la Nationale 2 féminine, tout ce qui est autour de, du hand en général et pourquoi le hand vit aussi bien dans la région, à Mazan, et de manière générale, la formation, quels sont les secrets. On va étudier tout ça, Pascal. Salut Pascal.
Salut Jean-Yves. Bonsoir à tous.
On aura aussi un invité, vous êtes habitué maintenant, c'est Jérôme Alonso, l'entraîneur de Carpentras 13, qui nous racontera les coulisses et les réactions de l'après-victoire contre l'Escure hier, une superbe victoire. Et puis ça remet un peu les pendules à l'heure. Et puis on va parler de tous les sports. C'est Valérie qui a les résultats. T'es arrivée avec ses feuilles.
Alors attention, tu disais une superbe victoire. Pour avoir vu le match, je dirais victoire, oui, mais un match pas des plus intéressants.
Ouais, écoute, ça reste une superbe victoire parce que quand tu viens de charger la semaine d'avant en coupe contre Pipo et Bimbo, t'as besoin de te remettre d'aplomb. Et voilà, mais on demandera à Jérôme qui nous appellera probablement vers 18h40 à peu près. On lui demandera ce qui s'est réellement passé dans la semaine. J'ai ouï dire que ça avait ronflé.
Ah oui, ça, je suis même certain. Mais bon, les Carpentraciens ont quand même tout, comme je pense les Mazanaises au niveau du hand, mais il leur manque un petit déclic, quelque chose. On va dire aussi, ils sont trop. Hier, on utilisait un peu le terme amorphe. Je sais pas. On n'a pas l'impression qu'ils percutent, qu'ils rentrent dedans. Ouais. Donc, c'est une impression qu'ils ont donnée au public hier. Dommage.
C'est une impression qu'ils donnent depuis pas mal de temps.
Alors que quand ils se mettent en attaque, ils peuvent, écraser facilement n'importe quelle autre équipe. Mais seulement hier, il y a eu du très bon et il y a eu du, on va dire, pas du mauvais, mais
Détends-toi, garde-en.
C'était du désagréable.
Garde-en.
C'était pas agréable à ce
Garde-en un peu sous le pied, Valérie. Garde-en un peu sous le pied. Waouh.
Voilà.
T'as passé une après-midi de merde, c'est ça, en fait. Hein.
Comment?
T'as passé une après-midi de merde, tu es remonté comme une pendule ce soir.
J'ai fait des demandes.
Non, mais pour hier.
Oui.
Hier,
ah oui, c'était pas une bonne après-midi.
Ouais, ça se voit, tu remontais comme une pendule.
Non,
voilà,
je suis pas remontée.
Messieurs les joueurs de Carpentras, si vous les écoutez, faites gaffe. Vous avez eu Jérôme dans la semaine. Ce soir, c'est Valérie qui va vous mettre une boîte. On va parler des autres résultats aussi, Valérie. Après le jingle de notre ami Théo qui va nous mettre un petit truc.
RTV Sport, les résultats du week-end.
Allez,
justement, je vais
Valérie
commencer.
Qui est sur les startings, là, on va vite y aller, sinon elle va bouillir, elle va exploser.
Avec justement le hand de Mazan, avec la Nationale 2 qui a perdu malheureusement face à Cagnes, 30-29.
Petite
déception.
Grosse déception, oui.
Parce que apparemment, c'est les dernières Cagnes en plus.
C'est les dernières, mais on savait que ça pouvait être compliqué parce qu'elles avaient fait des résultats. Elles n'avaient que des défaites, mais des défaites très courtes face à la Garde, le leader de 5 ou 6 buts le week-end d'avant. Donc, on savait qu'il fallait se méfier. Et ben voilà.
Voilà. Donc Mazan pointe à la 5e place avec 24 points. Rien n'est perdu pour arriver à la 2e. Pour la première, ça va être un petit peu difficile quand même. Il faudrait qu'elle gagne tous leurs matchs.
Je pense qu'il faut être sérieux. Il faut plus parler de ça.
Espérer finir par les 3 premiers quand même.
Voilà. C'est possible. Ce sera déjà très bien. Je pense qu'il faut travailler, préparer l'avenir par le travail. Le résultat final, c'est la conséquence du travail qui a été fait en amont. Donc il ne faut pas se tromper dans l'ordre des choses. Commençons par bosser. On s'est peut-être trompé, on a peut-être parlé, mais parce que les filles en ont parlé aussi, d'objectifs d'accession. Bon, voilà, mais c'est clair et net que c'était prématuré.
Définitivement mort, là, l'accession.
C'est très, très mal engagé. Puis c'est même peut-être pas souhaitable.
D'accord.
Voilà.
On va reparler dans un petit moment, Pascal. On va évoquer les résultats du week-end et puis on va revenir. On va avoir une très longue page. avec toi, Pascal.
Allez, je continue avec la pré-nationale. Donc, Mazan recevait les Sorgues du Comtat. Et Mazan-Sorgues s'est imposée 42 à 33. En championnat de territoire, Mazan, donc, elle s'est inclinée 24 à 49 face à Cavaillon. Ça arrive. En moins de 18 ans, au Challenge de France, Mazan-Sorgues s'est imposée face à Ajaccio 45 à 31. En moins de 17 ans, Elite PACA, Mazan, là, s'est inclinée 23 à 26 face à Cannes. Et enfin, en moins de 15 ans, Elite PACA, la Garde recevait donc Mazan et Mazan s'est imposé 34 à 30. Là encore, quand même de bons résultats quand même en général, même si je veux dire, la Nationale 2 a perdu, que le championnat de territoire Mazan a perdu.
Allez, rajoute-en, vas-y, rajoute-en.
Mais c'est quand même de bons résultats.
Au niveau de la formation, c'est très bien, oui.
Voilà, je parle en général ça va être de toutes
notre,
les équipes.
Ça va être notre gros sujet du soir, la formation, Pascal.
Allez, en rugby à 13, Elite 2, Carpentras donc recevait les Skure et Carpentras s'est imposé 32 à 16. Entraigues recevait Pia et là, Entraigues a raté son match, 4 à 24. Lille sur tête recevait Ville-Gaillen qui est à 24 à 10. Et enfin, Bao recevait Salon, 42 à 20. Au classement général, Carpentras est deuxième à un tout petit point de Villefranche sur Aveyron qui, lui, ne jouait pas. Suivi de Lille sur tête et de Pia, Bao et Entraigues qui est sixième avec 18 points.
Ouais, on avait annoncé cette équipe de Yeux sur tête, on en parlait la semaine dernière avec Jérôme. Ben voilà, ils confirment, ils ont juste fait exploser Ville-Gaillen sur leur terrain. Un ami catalan m'annonce le bout de bois du côté de Yeux sur tête dans quelques mois. J'y crois pas, mais en tout cas, voilà, cette équipe fait de plus en plus forte impression. Oui. Une équipe en plus où il n'y a pas un centime. Je voulais parler de ça deux secondes parce que Yeux sur tête, c'est une équipe qui monte cette année. Oui. Ils arrivent de National. Oui. Ils arrivent avec zéro euro de budget. Ils ont récupéré des mecs du cru. Et ils font un boulot monstrueux. Le président, c'est Eric Sibiod, c'est un mec qui est connu du côté de Perpignan. Et voilà, il fait vraiment un boulot monstrueux. Il a fait de la formation, il a pris le temps d'arriver, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Bien sûr, il s'est renforcé, mais voilà. Et puis, il y a un vrai bel état d'esprit dans ce club. À noter quand même que les cinq premières places de ce championnat, il y a trois équipes catalanes et tous du même côté, hein, Bao, Ville-Gaillen,
et
Pia.
Ouais.
Et voilà, c'est un peu, ça va être un peu tendu. Les Carpentrassiers, ben voilà, ils pointent toujours là, ils sont toujours là. Juste un dernier mot de rugby à 13, Valérie, parce qu'il y avait un match en retard en Elite 1. Le SOA Avignon recevait Carcassonne et ils ont battu Carcassonne.
Ouais. 26 à 12.
Ouais, ça leur permet d'occuper la première place du championnat. C'est juste extraordinaire parce que une saison horrible la semaine dernière, la saison dernière, ils ont perdu leurs deux meneurs de jeu, Joris Bissière et Jack Payne. L'Australien, ils ont fait appel à Younes Katabi, qui s'entretenait. Il s'entretenait, il a fait quelques bons matchs avec Entraigues. Et puis Younes est revenu hier sur la pelouse du SOA. Il a marqué un peu le truc parce que d'entrée sur son premier ballon, il marque un essai. Voilà, ça remet tout le monde d'aplomb.
C'est un grand joueur quand même.
Ouais. Et ben voilà, les bons joueurs restent des bons joueurs, même s'ils ont 100 ans. Et
il a pas 100 ans quand même, Younes.
Younes, si tu m'écoutes, je t'embrasse, mais bravo en tout cas pour ce retour. Il va rendre bien service
le temps
que Jack et Joris reviennent d'aplomb.
Ouais. Je continue avec le rugby à 15 en fédéral 3 poule 6. C'était la 13e journée. Aix recevait Avignon-le-Pontet 20 à 16. Cavaillon, Île-sur-la-Sorgue 20 à 23. Les Angles au Bagne 13 partout. Au classement général, Les Angles est premier, suivi de Draguignan et d'Avignon-le-Pontet. En fédéral 1 poule 2, 14e journée. La Xéré-Château-Renard 28 à 7. Bédarry-Château-Neuf, tu vois, je l'ai dit aujourd'hui, Château-Neuf. Aubenas 17 à 21. Au classement général, Bédarrid est 7e et Château-Renard 9e.
J'étais au match hier, bien sûr, Bédarrid Aubenas. Courte défaite de la SBC après avoir mené quasiment pendant tout le match. Et puis, ça arrive dans tous les sports, mais hier, un arbitrage vraiment, vraiment, vraiment dégueulasse. Un arbitre en mission quasiment qui met un carton rouge à Thierry Brana. Sur soi-disant une percussion avec le coude. On voit sur des photos depuis hier soir exactement la même action d'un joueur de Benoît sur Adil Achabar, le 10 de Bédarid, et là il n'y a pas, même pas le moindre, la moindre pénalité. Quelques minutes après, il y a un essai de pénalité vraiment contestable sur la deuxième mêlée. Honnêtement, il n'y a pas. Alors, ça n'excuse pas que Bédarid a perdu, enfin, la SBC a perdu. En tout cas, voilà, c'est un peu mon coup de gueule du soir. Mais ces arbitres, c'est à te dégoûter de jouer et surtout à te dégoûter de faire des efforts parce que ils peuvent influer sur le cours d'un match quand ils en ont envie. Et c'est pas à toi que je vais apprendre ça, Pascal, parce que le hand est réputé aussi pour ses largesses arbitrales souvent.
Bah, c'est-à-dire que, enfin, moi, je tire pas sur l'arbitrage. Hein, je pense que c'est très très compliqué parce que ça va relativement vite. Et puis après, sur des actions au handball, ben c'est toujours une histoire d'interprétation.
Un peu comme au rugby, ouais.
Un peu comme au rugby, et selon comme tu interprètes, pourvu que tu interprètes pas de la même manière pour une équipe et pour l'autre, et du coup, enfin l'arbitre peut être taxé de parti pris. Donc ça, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué.
Il y a quand même des arbitres de touche, hein, donc.
Alors là, je dis pas que ça. Ouais. N'existe pas, hein, mais
là en l'occurrence hier compliqué. c'était manifeste, quoi. Il y a deux photos où on voit bien que ce sont exactement les mêmes actions. Ça excuse pas le geste de Thierry, bien au contraire. En plus, il a pas fait exprès. C'est pas Thierry, c'est pas un mauvais mec. Il prend un rouge sur le coup. Il y a zéro discussion. Et quelques minutes avant ou quelques minutes après, je me rappelle plus très bien, il y a cette action sur Adil Achabar. Franchement, ben voilà, c'est bref.
Allez, je continue avec du football en régional 1, les filles. Donc Carpentras donc recevait Carros, 0 partout. Là aussi Monteux-Carros, 0 partout. Monteux là aussi a raté une occasion de marquer des points. Et Avignon recevait Cannes, 4-1. Monteux est toujours deuxième, hein, derrière Avignon, l'éternel numéro 1. En régional 2 masculine, poule C, 11e journée, Saint-Didier-Pernes recevait La Ciotat, 1-0 pour Saint-Didier. Saint-Didier est 9e au classement général. En district 1, Barbantane recevait Carpentras, 7-2. Carpentras est 10e au classement général. District 2, Entraigues-Pernes, 3-2. Pernes et Velleron Monteux, 0 partout. Au classement général, Pernes est 3e, derrière Sorgues et Entraigues, et Monteux est 7e. En D4, poule B, Serres recevait Le Ventoux Sud, 0 partout. Serres est 6e au classement général, nos amis de Serres.
On va les faire venir, un de ces quatre, non ?
Qui est nos copains de Serres ? Ouais, bah, ils sont toujours partants en plus.
Ouais, c'est juste
ils sont
à côté.
Toujours partants, ils sont charmants.
Un petit mot de basket, Valérie ?
Ah, oui, j'allais le dire. Mais
ben voilà, non, mais vas-y alors.
J'allais commencer par l'ABC Carpentras, quand même, nos amis de l'ABC Carpentras. En U18, filles, Carpentras se rendait à Sorgues et Carpentras s'est incliné 40-59. En U20 départemental, Carpentras se rendait à l'USAP. Et là encore, alors Carpentras s'est incliné 34-107. En U20 régional, Carpentras se déplaçait à Cavaillon, 35-41. En senior fille, les filles de Carpentras recevaient les Angles. Elles se sont imposées 50-43. En senior garçon, Carpentras s'est rendu à Montfavet et Carpentras s'est incliné 46-68. Et enfin, en pré-national, Carpentras donc recevait Rognonias 41-43. Et il y avait, je suppose, que tu voulais parler de nos amis de Sorgues. Pour la 14e journée, qui se sont rendus au Golfe Juan et qui se sont inclinés 84-74.
Est-ce bien la peine d'en parler encore, Valérie de...
Et ils sont 12e au classement général.
Ils sont 12e.
Pas, là, ça a mal, là, hein.
Ils sont 12e avec des résultats qui vont de mal en pis, c'est de pire en pire. Voilà, des résultats à l'image de la gestion du club. Encore une fois, on va dire
parce que là, ils sont avant-dernier, donc relégable.
En TP-ultième. Oui. Ça s'appelle comme ça. Oui. Par contre, en National 1, il y a le Pontet Avignon qui fait une jolie saison pour une équipe qui était encore en National 3 la saison dernière. Ben voilà, cette équipe fait plus que le job. Ils font du bon boulot. Ils sont 8e au classement un peu plus de la mi-parcours. C'est pas mal.
C'est pas mal, oui.
C'est du bon boulot. Le club est en train de se structurer correctement et je serais pas étonné que l'année prochaine, ça joue les premiers rôles du côté de l'USAP. Voilà. Bon pour les résultats, Valérie ?
C'est bon pour les résultats.
Si Théo est prêt, on va parler de l'invité du jour.
RTV Sport, l'invité du soir.
Avec, ben voilà, notre invité du soir, c'est, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est Pascal Vassé. Pascal Vassé, c'est un des patrons de du hand d'Amazon, du hand féminin Amazon, et directeur technique, vice-président, couteau suisse.
Ça fait combien d'années que tu es Amazon maintenant?
Je suis vice-président délégué. Voilà, la présidente étant Pascal Demuru.
Ouais. Ouais.
Combien d'années? Une bonne vingtaine.
Oui, parce que moi, je crois que je t'ai
dit. Il y a un poste que tu n'as pas occupé à Amazon.
La présidence, oui.
Ouais, pas ouais. Encore?
Non, pas. Non, ça, mais ça pas arrive. Encore. Et je pense que je ne l'occuperai pas, mais voilà.
C'est... Sinon, tu as à peu près tout fait, c'est ça?
Oui, à peu près tout, oui. Entraîneur avant tout, et
bien
puis
sûr.
Avant de devenir dirigeant, oui. Ouais. Mais c'est une passion, donc voilà. Et l'idée, c'est au fil de ces années, ça a toujours été, enfin, mon fil conducteur a toujours été d'essayer de m'entourer d'un maximum de personnes. Et aujourd'hui, ben, on a bien avancé, quoi. La structure quand même commence à être solide. Bon, il faut continuer, quoi. Mais voilà, il y a matière à faire encore. Et surtout, il faut qu'il y ait de plus en plus de bénévoles. Il faut qu'on organise encore mieux les choses pour rendre la structure pérenne.
Alors justement, on parle deux petites secondes de National 2, puisqu'on l'a évoqué rapidement tout à l'heure. Et puis après, on va revenir au sujet qui nous intéresse. Mais la Nationale 2, les féminines, font une bonne saison, même si ce n'est pas la saison qu'on espérait. C'est presque un petit peu décevant de les voir occuper la cinquième place, alors qu'en début de saison, vous étiez projeté pour jouer la montée.
Oui, évidemment, c'est un petit peu décevant dans la mesure où l'an passé, on termine à une belle troisième place et où, sur la dynamique de matchs sans défaite, je crois que c'était, il y a eu 17 matchs d'affilée sans défaite, les joueuses se sont prises à rêver d'appréhender le niveau supérieur, donc d'avoir pour objectif l'accession nationale 1. Bon, voilà, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, il faut être réaliste, c'est trop tôt. On n'est pas prêt, tout simplement. Le niveau de la Nationale 2 par rapport à l'an dernier est meilleur, surtout plus homogène, beaucoup plus homogène. Et puis peut-être que la succession de matchs sans défaite de l'an passé finalement a fait mal, puisque quand on gagne, ben on oublie souvent de là où on vient et on oublie de faire les efforts nécessaires pour que ça dure un peu plus longtemps, surtout lorsqu'on gagne des matchs de manière incroyable à ce moment-là. Et bien un jour ça s'arrête cette série-là, donc ben, il faut tout simplement se remettre au travail. Mais moi je suis pas du tout inquiet par rapport à ça. Ça fait partie de la progression du club et de la progression de l'équipe. Les choses vont forcément rentrer dans l'ordre. Il faut reprendre le travail, les bases, et puis les résultats seront la conséquence de ce travail qui aura été fait en amont.
La différence par rapport à la saison dernière, pour vite terminer avec ça, c'est qu'un match comme ce week-end par exemple, la saison dernière vous l'auriez gagné, ça aurait basculé du bon côté.
Oui.
Et là il y a une paire de matchs cette année qui aurait pu basculer du bon côté et qui bascule pas comme ça aurait basculé la saison dernière. On dit toujours qu'il faut un peu de chance aussi, la chance du champion.
Oui, mais la chance, il faut savoir la provoquer.
Bien sûr.
Donc voilà, il faut bosser. Il y a pas de secret. Hein. Alors je dis pas que les filles ne sont pas investies, ne travaillent pas, hein, mais peut-être qu'il faut qu'elles soient encore plus engagées dans ce qu'elles font. Et puis voilà. Puis au fil des semaines, au fil du temps, les choses. Alors je veux pas dire la chance, mais les choses tourneront
bien
dans
sûr.
Le bon sens. Du moins, j'ai aucun doute là-dessus, parce qu'il y a un staff qui fait du super boulot avec elles. Donc, je sais que eux se posent beaucoup de questions aussi. Donc, ils vont forcément se remettre en cause avec les filles. Et de toute façon, les choses vont. Quand on veut aller de l'avant, ça passe toujours par des moments délicats comme celui-là, et ben voilà, ça en fait partie. Mais il faut que ce soit l'essentiel, c'est d'en tirer les bonnes conclusions et puis trouver les bonnes solutions par rapport aux difficultés qu'on rencontre actuellement pour pouvoir rebondir. Voilà, mais j'ai aucun doute là-dessus, ça va se faire tranquillement.
Du coup, la transition avec notre sujet qui nous occupe,
oui.
c'est les jeunes que vous avez quand même réussi à incorporer dans cette équipe de National 1. C'est le fruit d'un énorme boulot en amont. On sait que Mazan, c'est un club formateur. Il y a beaucoup de nanas qui jouent en National 2 aujourd'hui, qui ont été formées au club,
oui.
Ou en tout cas qui ont été formées dans l'entourage du club, puisque maintenant il y a le partenariat avec
la convention avec Sorgue,
et il y a quelques filles qui jouent en première aujourd'hui qui arrivent de là.
Oui, ben c'est, je crois que c'est incontournable. Et puis c'est notre ADN. Hein, on a toujours, on s'est toujours appuyé sur la formation. C'est pour ça que c'est sûrement plus long de s'appuyer sur la formation pour accéder au niveau supérieur. C'est plus long que pour un club qui a des moyens et qui va investir de l'argent pour faire venir des gens d'ailleurs. Mais par contre, c'est plus long, mais c'est plus solide. Parce que les gens ont l'amour du maillot, parce que les gens ont toujours été là, parce que les gens sont dans l'esprit du club. Et ça, c'est fondamental. Alors, peut-être que ça brille pas tout de suite, mais c'est un travail de longue haleine. Et de toute façon, par rapport à notre environnement, on n'a pas d'autre choix que celui-là. On n'est pas dans une ville de 50 000 habitants, donc on a des moyens qui sont les nôtres, et avant tout, les moyens que l'on a, on les met sur la formation, donc sur la promotion du hand dans les écoles notamment, sur la fidélisation des gamines qui viennent ensuite au club, et puis évidemment sur la formation, hein. Donc les trois étapes, c'est promotion, fidélisation, formation. Voilà. Et si on s'appuie vraiment sur ces trois pôles-là, eh bien, on peut envisager l'avenir sereinement, quels que soient les résultats de l'équipe 1 à un moment donné. C'est pas fondamental. C'est pas ça qui va remettre en cause la pérennité du club. Et pour moi, ça, c'est vraiment très, très important. Et c'est le point de départ de tout. C'est fondamental, quoi, tout simplement.
Au niveau de la structure, je sais que vous êtes attaché les services de quelqu'un qui est spécialement détaché à tout ça, au développement de ce qu'il y a en dessous l'équipe 1, c'est ça ?
Oui, c'est ça, oui. On a créé un emploi d'agent de développement. Alors, en réalité, on a deux salariés et demi équivalents temps plein, mais dont une secrétaire à mi-temps. Mais le Vincent Legat, qui est responsable de l'équipe première, est avant tout un technicien. Donc lui, il n'a pas le temps d'aller sur le terrain. Et en fait, il y a quelques années, quand on a créé le premier emploi, l'emploi faisait à la fois de la formation et en même temps du développement. Donc la promotion, quand je parle de développement, je parle de promotion, hein, du handball dans les écoles. Et aujourd'hui, ils ne pouvaient plus faire tout ça parce qu'on a près de 250 licenciés, parce qu'il y a une équipe en National 2, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Et donc on a créé un poste d'agent de développement occupé par Charles Noël, qui a en charge les moins de 18, mais qui est responsable de toute la filière jeune. Donc encore une fois, la promotion dans les écoles, hein, puisque avec un jeune qui est en contrat d'apprentissage, ils essaient de balayer tout le territoire.
C'est-à-dire, ils vont dans toutes les écoles du bassin mazanais, du bassin carpentracien,
territoire intercommunal et Ventoux Sud également, puisqu'on va à Mormoiron. Donc voilà. L'idée, c'est d'aller dans le plus d'écoles possible. Alors, les écoles privées ou sous contrat avec l'État nous ouvrent les portes
facilement, bien sûr.
Dans le temps scolaire. Donc là, c'est royal, puisqu'on peut, on intervient à Saint-Dominique, à Mazan, on intervient à Pila, à Carpentras, on intervient à Baume de Venise aussi, où il y a une petite école. Ça, c'est sur le temps scolaire. Après, il y a le périscolaire. Alors, c'est peut-être un petit peu moins qualitatif, mais on intervient aussi, donc forcément, donc à Mazan, dans ce cadre-là. On intervient aussi à Mormoiron. On intervient également, enfin, voilà, à La Roseraie, ça, c'est autre chose sur Carpentras, mais voilà, on intervient sur plusieurs écoles pour essayer de faire venir pour promouvoir l'activité. Et ensuite, ce qui est important, c'est les passerelles qui sont créées pour faire venir les enfants au club. Parce qu'il ne s'agit pas de faire des interventions dans les écoles. Si on se contente de ça, le résultat à la fin, il sera pin-up ou quasi, ou ce sera très long. Là, l'idée, c'est de, à chaque fois qu'il y a une intervention, qu'il y a des interventions dans les écoles, l'idée, c'est de créer une circonstance qui va faire que les filles et les garçons vont avoir envie de venir au club. Enfin, vont venir au club, vont mettre les pieds dans le gymnase.
Comment tu fais pour créer ce genre de circonstances ? Parce que jusque-là, le rugbyman que je suis, ce que tu racontes là, on connaît. C'est-à-dire, on délègue des gens de qualité pour aller dans les écoles. Ça se passe bien dans les écoles en général. Par exemple, au collège de Bédaride, il y a une trentaine de gamins qui sont à l'AS rugby.
Oui.
Mais on a du mal à j'allais te dire à transformer l'essai, mais on a du mal à faire basculer ces gamins qui sont pas nécessairement des gamins de club. Mm-hmm. On a du mal à les faire venir le mercredi après-midi. Comment tu fais, toi?
Alors c'est toute la question, la bascule de l'école vers le club. Au niveau du collège, puisque tu parlais du collège, on a une convention de partenariat avec le collège de Mazan, de la 6e à la 3e, et là dans les groupes de collégiennes, parce que ce sont exclusivement des filles, il y a des filles qui sont déjà au club et d'autres qui ne le sont pas. Mais l'idée, c'est surtout que celles qui ne le sont pas finissent par venir au club. Donc, dans l'encadrement, c'était à chaque fois un binôme, c'était un entraîneur du club et le responsable de la section, M. Andreu, prof au Collège Fabre. Donc les entraînements ont lieu en commun aussi avec le club. Enfin, voilà, il y a toute une organisation qui fait que la bascule se fait facilement. Pour ce qui est du secteur primaire, des écoles primaires, c'est des organisations comme celle du week-end prochain, on fait des mini-miss. Alors les mini-miss, c'est pour les petites filles de CE2 à CM2. La dernière fois, c'était cette opération-là sur le département avait lieu à Mazan. Donc du coup, c'est ouvert aux non-licenciés, donc on les fait venir. Donc il y a un tas d'animations qui sont périphériques à l'activité handball. Elles sont
ça venues. Reste malgré tout de l'initiation dirigé vers la pratique de...
C'est une journée dédiée aux filles. On l'a appelée Minimis. Donc, y a tout un tas d'activités périphériques qui vont aussi faire que ça rend attractif la pratique du hand, genre déguisement, enfin des choses comme ça. Elles repartent avec un t-shirt du club, enfin voilà. Et quand c'est le week-end qui vient, il y a à nouveau une opération Minimis. Elles vont à la Roque d'Anteron. Eh ben, on emmène toutes les filles du club et auprès de qui on fait des interventions dans les écoles qui ne sont pas encore au club, en car à la Roque d'Anteron. Donc faire un déplacement en car pour une petite fille de l'école de Baume de Venise ou de c'est un truc, elle va s'en souvenir longtemps et la bascule elle se fera probablement l'année prochaine. C'est les minimis, c'est les opérations portes ouvertes, c'est le tournoi de Noël, c'est un tas de circonstances qui fait qu'on invite qui nous permettent d'inviter les non licenciés au club.
Vous avez un retour sur le nombre de filles du coup, parce qu'on parle de filles là en l'occurrence, mais le nombre de filles que vous voyez dans le cadre de ces activités là hors hand, c'est quoi un pourcentage? T'as une idée de ça? Vous avez réussi à le quantifier?
Tu vas me dire qu'on perd notre temps?
Justement, parce que.
Alors c'est difficilement quantifiable.
Mon idée, moi, c'est que si tu fais tout ça et que la saison prochaine, t'as récupéré 3 gamines, t'as gagné. Ouais. C'est ça?
Un petit peu plus quand même. On a vraiment mis en place ces actions-là puisque Charles a été recruté l'année dernière. J'ai oublié les stages pendant les vacances scolaires aussi, ouverts aux non-licenciés. Ça aussi, ça fonctionne très bien avec du handball et des animations autour. L'an dernier, on était à 220 licenciés, on est à 250 aujourd'hui. Cette année. Donc en un an, on a fait plus 30 en termes de bascule. Mais on a vu 700 et quelques filles. Ouais. 700 et quelques filles ont eu l'occasion de pratiquer du hand dans le cadre de l'école, en périscolaire ou en scolaire. Donc voilà, il a fallu en voir 700 et quelques pour avoir... Sauf que ce qu'on se dit, ce que Charles dit, c'est que la bascule, elle s'est faite probablement qu'en partie cette année, et il espère bien que l'année prochaine, il y en ait d'autres, parce que il peut y avoir des filles qui étaient déjà engagées sur une autre activité, finalement elles poursuivent, et elles ne feront la bascule que l'année prochaine. Donc, on espère encore plus 30 l'année prochaine, et puis après on aura atteint une vitesse de croisière, il faudra juste entretenir.
Ouais. Ça me fait rêver, Pascal, tes trucs là, mais on va mettre une petite page musicale, et puis on revient parce que,
si tu veux,
parce que ça
m'intéresse. Avec plaisir. What is love?
Sport sur RTVFM.
Allez, on est de retour ici au studio, toujours avec des gens entourés de gens malades en fait ce soir. Notre technicien est en train de se décomposer derrière son pupitre. Ma coéquipière à gauche, Valérie.
Je commence à avoir le nez et tout pris.
Va pas tarder à ne plus pouvoir parler.
Si.
Quant à Pascal, il reçoit des messages pour lui dire que.
Et puis il est malade aussi.
Il a le pif bouché.
Bah ouais. Il parle du nez.
Messieurs, dames, si.
C'est la période. Hein.
Si je peux me lever demain, vous saurez pourquoi. allez, revenons un peu plus sérieusement. Pascal, on parlait avant la pause musicale de ces stages et du nombre de gamins que vous aviez l'occasion de voir pour les sensibiliser au hand. Comment vous faites pour pouvoir attirer des gamins non handball et pour pouvoir leur faire pratiquer le hand pendant une semaine, pendant quelques jours?
Oui.
On ne peut pas faire ça dans mon sport, en tout cas. Si tu veux organiser une manif hors... avec des mecs qui ne sont pas assurés, c'est une usine à gaz sans nom. Alors on y arrive, mais c'est une usine sans nom. Alors que chez vous, au hand, tout a l'air vachement plus simple. Mais quel que soit le domaine qu'on prend, quel que soit ce dont on parle, tout a l'air beaucoup plus simple chez vous que dans tous les autres sports.
Alors depuis longtemps, la fédération a mis en place un système de licence événementielle, ce qui nous permet de faire des licences, donc d'avoir une couverture par rapport à en cas d'accident. Ça comprend donc justement une assurance. Alors ce sont des licences qui sont prises en charge par la fédération, qui ne nous coûtent rien. Par contre, elles sont faites pour faire profiter à des enfants dans une école d'un cycle de hand qui serait ponctué par exemple par un stage ou par une journée porte ouverte ou des choses comme ça. Et voilà, de ce fait, le gamin qui vient dans la structure club non licencié, finalement on lui fait une licence événementielle, ce qui permet de d'être tranquille par rapport à l'assurance.
Et du coup de lui donner envie de rester
Bien sûr, c'est le but, hein. C'est le but. Donc les stages, c'est vrai que ça fonctionne très très bien. On fait des stages à chaque vacances. Et de mémoire, il me semble que le dernier stage de Noël, qui a duré que 3 jours parce que la période ne se prêtait pas à un stage d'une semaine, on avait 3/4 de non licenciés sur ce stage-là.
D'accord.
Donc voilà quoi, c'est tout bénef. On fait des stages avec des semaines à 40 enfants quoi. Voilà, c'est.
Est-ce que quelque part, excuse-moi, je posais une question peut-être un petit peu. Est-ce que quelque part, c'est pas une façon détournée pour les parents de les mettre dans une discipline ou peut-être.
En fait, on leur propose.
Une sorte de garderie, quoi.
Tu fais bien. C'est donnant-donnant parce que c'est donnant-donnant pour les parents qui qui ont une solution garderie entre guillemets, mais c'est gagnant-gagnant aussi parce que
oui, du coup, y a
Pascal,
des enfants qui peuvent,
Pascal en échange de la partie garderie, et ben sur les 40 gamins non licenciés qu'il a eu à Noël, ben peut-être que sur le lot il va en récupérer 4-5.
Ça vaut le coup largement.
C'est une bonne idée, ce que je veux dire au niveau, parce que c'est vrai.
Et puis ça fait partie de les stages. Ces stages font partie de notre du développement du club. C'est-à-dire que ce sont pas des stages gratuits non plus.
Bien sûr.
Voilà, il y a les. Alors c'est un coût modeste, hein, mais ça permet effectivement aux parents de mettre leurs enfants à une activité sur une semaine pendant les vacances.
Bien sûr.
Et bon, après, il faut qu'on propose quelque chose de qualité, parce
bien
que
sûr,
sinon, les enfants, ils vont venir une fois, mais après, ils voudront plus venir. Donc, si on veut qu'ils reviennent sur les stages suivants et qu'ils finissent par venir au club,
il faut
que ce soit ludique. Donc, on fait du handball et d'autres activités. On appelle ça des stages multisports, enfin, handball et multisports.
On fait ça aussi, nous, au rugby, mais par contre, pour des problèmes d'assurance, par exemple, on se heurte aux pratiquants du club.
Oui, oui.
C'est-à-dire que moi, je m'occupe des moins de 12 dans mon club. Si je veux attirer, c'était le cas au stage de novembre, si je veux attirer des gamins qui sont hors activité, hors club rugby, mais c'est toute une usine à gaz, ça m'amène à la suite de mon intervention, c'est de me dire que finalement t'as de la chance de faire partie d'une fédé où les mecs sont intelligents mais depuis longtemps. C'est pas pour rien que depuis les années 90-92 me semble-t-il le début de l'aventure.
92 Barcelone,
ouais.
Enfin bon, ça avait commencé bronzés, un petit peu avant, hein, mais les premiers résultats significatifs c'est 92 Barcelone. Ouais.
Mais allez, on va dire que ça fait 30 ans maintenant.
Oui.
C'est pas complètement, c'est pas par hasard que les résultats, les générations s'enchaînent, même si là il y a un creux chez les mecs en ce moment.
C'est pas vraiment un creux parce que j'ai pu entendre qu'ils ont des champions du monde
moins de 19 et moins de 20, je crois, ou un truc comme ça.
Mais même l'équipe peut faire de meilleurs résultats, mais bon.
Donc, mais de manière générale, ça fait 30 ans que cette fédé engrange les bons résultats, que ce soit chez les gamins, chez les mecs, chez les nanas, dans toutes les catégories.
Alors,
il n'y a pas de hasard finalement.
Non, il n'y a pas de hasard. Et le handball est un sport scolaire, a cette réputation de sport scolaire. Donc,
on a tous été, quand on était jeunes,
on a tous fait du hand quand on était minot dans la cour d'école. Et les licences événementielles, ça correspond aussi à ça. C'est-à-dire qu'il y a eu des licences événementielles justement pour faire la bascule, pour que les enfants qui pratiquaient le handball à l'école puissent en faire ensuite dans le cadre du club. Et après, il y a toute cette pyramide qui, parce que tout à l'heure je parlais de promotion, mais ensuite il faut fidéliser, il faut que les enfants aient envie de rester au club. Et donc il faut qu'ils soient bien accueillis, qu'on leur propose que ce soit ludique, etc. Et ensuite, on entre vraiment dans le dispositif de formation. Et là, la formation, je pense qu'on est au niveau fédéral, on est très bon, puisque la formation, ça passe par les détections départementales et régionales, et ensuite on a ce qu'on appelle les pôles espoirs. Et pôle espoir, ça démarre en troisième terminale. Et donc c'est lié aussi à l'école, parce que enfin il y a toujours un lien avec l'école en fait. Je crois que c'est dans le.
Mais au-delà de ça, la qualité de détection, la qualité technique, enfin on arrive à un niveau chez les handballeurs qu'on retrouve difficilement ailleurs. Par exemple, on voit des mecs qui s'investissent dans votre sport plus qu'ailleurs, des anciens par exemple, qui s'investissent au rugby. On voit débarquer des cadres techniques dont on n'a jamais entendu parler nulle part, parce qu'ils sont passés par la filière fédérale, machin. Tant mieux pour eux, ils arrivent à vivre du rugby. Alors que je prends l'exemple de Gardan par exemple, qui a fait partie des bronzés.
Ouais.
Ce type-là, finalement, il est présent à tous les échelons.
Oui, alors j'ai pas un avis aussi catégorique que toi là-dessus, parce que c'est pas parce que t'as été joueur de haut niveau que tu es forcément un bon entraîneur. Ceci dit, Il y a effectivement des joueurs de haut niveau qui sont devenus de bons entraîneurs. Mais il y a aussi des gens moins connus en tant que joueurs, style Patrice Canaillé à Montpellier, qui, à ma connaissance, n'a jamais été un joueur de très haut niveau. Et c'est, c'est aujourd'hui un des meilleurs entraîneurs au monde. Quoi, hein.
Donc, Pascal, on reste là-dessus, reste là, mais on se met en pause deux minutes, on accueille notre ami Jérôme Alonso. Jérôme.
Allô.
Oui, ouais. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir. Salut Jérôme, ça va ?
Ça va, ouais, merci.
Ça va mieux que la semaine dernière ou quoi ?
Ouais, bien évidemment, oui, c'est sûr. C'est une victoire, ça va toujours mieux que l'endemain de défaite qui plaisait de la façon qu'on avait perdu. Ouais.
Raconte-nous un petit peu, parce que ma coéquipière apparemment était au match hier et elle s'est franchement ennuyée, pour ne pas dire pire. Et elle m'a dit que ça a été...
J'étais pas la seule.
Ça a été une victoire un peu en bois. Raconte-moi un peu ça.
En bois, pas en bois. Ils ont mérité de gagner puisqu'ils l'ont gagné. Mais ouais. C'était pas un match plaisant.
Ça y est, elle a la trouille. Elle a
non,
la trouille.
Non. Je lui ai dit hier, ce n'est pas...
Non, j'en ai parlé avec elle à la fin. Voilà. On en a parlé un peu ensemble. Non, c'est vrai que c'était un match un peu bizarre. Il y avait pas beaucoup de rythme. Il y avait pas beaucoup de... Bon, après je pense que l'arbitrage de M. Grandjean a été un peu aussi pour ça, parce que il a laissé beaucoup travailler sur les tenues, ça fait que
c'est ça.
Les tenues étaient longues, tout était un peu long, et c'est vrai qu'il a manqué beaucoup de rythme. Maintenant, nous, on était dans une optique où il fallait absolument qu'on gagne, donc on avait mis un plan de jeu pour faire en sorte de se mettre rapidement à l'abri, même si on n'a pas été trop à l'abri à la mi-temps, parce qu'on a fait quelques petites fautes de précipitation. On a contrôlé le match dans son ensemble, on n'a jamais été en difficulté, donc on n'a pas eu non plus besoin de mettre la multiplier pour déborder cette équipe de l'Escure. Mais c'est vrai que c'était un match quand même un peu bizarre.
Ça fait quand même du bien, là, parce que du coup, cette victoire contre une équipe un peu plus faible au classement, même voire beaucoup plus faible, mais du coup ça vous remet bien au classement et ça vous redonne un peu de confiance.
Ouais, tout à fait, ouais. C'est ce que j'avais dit aux joueurs, il fallait absolument s'imposer pour finir la phase aller à la seconde place et à un point du premier. Donc c'est chose de faite. Maintenant voilà, les objectifs de la phase aller sont atteints. On a un peu, enfin, moi j'ai un peu toujours le match de pied en travers de la gorge, parce que si c'est pas passé ce qui s'est passé, ben on serait premier à l'heure actuelle, mais bon, tant pis pour nous, on n'a pas su gagner le match. Donc voilà, maintenant il faut bien se reposer, puisque quand même on a enchaîné quand même 13 matchs là en 3 mois, donc il y a quand même quelques organismes qui ont souffert, donc là on a 15 jours sans jouer, on va bien régénérer les forces et pour bien préparer cette fin de championnat.
Ça a ronflé un peu à l'entraînement mardi soir, Jérôme ? Mardi dernier ?
Ouais, ça a ronflé, en fait, sans crier, puisque maintenant, comme je leur ai dit, c'est des grands garçons. Moi, j'ai 3 enfants à la maison, j'éduque mes enfants, je suis pas là pour les éduquer ou les élever, je suis là juste pour les faire jouer au rugby, mais bon, il y avait un manque de respect envers les bénévoles qui font vivre ce club, envers l'institution du club, tout simplement, à Real Monde. Donc je les ai mis devant leurs responsabilités. J'ai été franc avec eux, je dis qu'il y en avait certains qui m'avaient prêté un coup de couteau dans le dos à moi et au club, et qu'ils n'auraient pas une seconde chance. Donc ces joueurs-là, justement, j'ai souhaité les remettre titulaires justement dimanche pour qu'ils me prouvent que c'est une erreur de parcours et que ça se reproduirait plus. Et les joueurs que j'avais cités, ben, ils ont fait leur match, ils se sont comportés en bonhomme, et voilà, ils m'ont donné une réponse positive, donc c'est bien pour la suite. En plus, bon, comme je dis de nouveau hier, même si on compte Hugo Bravo qui est maintenant un peu cas de la bouteille et tout, mais hier on a 5 juniors quand même sur la feuille de match titulaire, donc 9-7-6, donc c'est quand même très positif pour nous cette première partie de championnat.
C'est toujours la satisfaction depuis le début de la saison. Ces juniors que tu n'avais pas les autres saisons là, cette année tu les as, et finalement ça te libère d'un poids là où tu peux faire retourner, tu peux mettre un peu de concurrence dans ton groupe, et ça fait monter un peu l'émulation chez les supposés cadres qui restent sur le bord de la touche, non?
Oui, c'est ça, exactement. Là, depuis le début de la saison, on doit être à 7 juniors qui ont évolué avec nous. Ils ont tous répondu présent. Là, les deux derniers matchs, Jim Serrano qui vient de faire 17 ans au mois de décembre, j'avais pas voulu le faire jouer justement
avant, parce qu'il
avait que 16 ans, et, et j'avais pas voulu prendre le risque de le faire jouer, même s'il a que quelques jours de plus, il a 17 ans maintenant, ça fait deux matchs qu'il fait avec nous, et où vraiment devant c'est lui qui amène tout le monde, donc oui, c'est très positif. On a encore Chaïm à Medras qu'on n'a pas fait jouer, que je pense faire rentrer dès la reprise à Toulon. Ça fera 8 juniors qui auront joué avec nous cette saison, donc c'est très positif pour la suite, et comme tu dis, ça fait voir un peu aux anciens qu'il faut qu'ils se bougent s'ils veulent garder leur place, donc ça c'est que bénéfique pour le club.
Dernière question, Jérôme, au-delà de l'aspect à court terme là, c'est-à-dire dans les 2-3 mois qui viennent, ça laisse entrevoir des belles journées pour le club. On en parlait avec notre invité là, Pascal Vassé, qui nous disait la même chose, c'est la formation et vous touchez aujourd'hui un peu les dividendes de ce que vous avez mis en place depuis une paire d'années.
Oui, tout à fait. Oui, mais là, il faut tirer un grand coup de chapeau à Xavier, déjà, en premier temps, Xavier Yurka, qui avait repris l'école de rugby il y a 5 ou 6 ans en arrière, et qui avait fait un gros travail pour construire un peu l'école de rugby qui était un peu à l'abandon.
Complé.
Là, ça fait quelques années maintenant qu'on a toutes les catégories. Je pense qu'on doit être un des seuls clubs, élite 1, élite 2 confondus, où on peut se vanter d'avoir des premiers pas jusqu'au cadet. Olivier Rostand qui fait un boulot énorme aussi avec les U13 et les U15, Ludo Bourgeon et Olivier Tocco pareil avec les U17 et Marco Etchouk avec les U19. Donc oui, c'est de bon augure, surtout qu'on voit que bon, nous on est second au classement, les juniors sont premiers, les cadets sont pas loin d'être premiers aussi, donc ça prouve que on est bien représenté dans toutes les catégories, on a de bons résultats, donc ça c'est très positif pour la suite, parce que voilà, c'était un objectif de jouer avec des gens du cru. L'an dernier, on a eu un peu des soucis à l'allumage, on a été obligé de prendre Toby, un étranger, mais l'objectif, oui, c'est à long terme de jouer qu'avec des gens du cru.
Jérôme, on va te libérer, on a encore quelques mots à dire à notre invité. Merci pour ta dispo. Le prochain, c'est dans 15
jours.
Toulon.
Voilà, le prochain, ce sera Toulon dans 15 jours. Hein.
Et Entraigues, ça va arriver vite, non?
Un derby à la maison.
Ça va arriver, que je dise pas de bêtises, il me semble que c'est le 1er mars.
D'accord. Bon, on aura le temps de se reparler d'ici là. Je vais te dire bonnes vacances, ça va être un petit peu allégé là pendant cette semaine, et puis après tu vas remettre la main sur le truc, c'est ça?
Voilà, là cette semaine on va faire beaucoup de récup, beaucoup de jeux, et pour un peu se régénérer, et surtout s'aérer aussi les têtes, parce que c'est pas évident pour eux, c'est pas évident pour moi, parce que comme tu sais maintenant les staffs sont de plus en plus étoffés, il y a 4 ou 5 entraîneurs par équipe, moi je suis tout seul, donc j'ai besoin aussi moi un peu de...
Toi tu es étoffé, ouais, tout seul.
Voilà, j'ai besoin un peu de souffler, de remettre tout en place, et même de faire mon autocritique, parce que même moi je suis pas parfait, il y a des choses que j'ai mal faites et qu'il faut pas que je refasse dans la seconde phase.
Ouais. Écoute, va démonter un 15 et puis ça va te faire du bien. Allez. Salut, à bientôt. Allez. Merci beaucoup.
Bonne soirée,
bravo,
Jérôme.
Tout le monde, ciao,
bravo, Jérôme.
Allez, on revient. Je me regarde parler avec Jérôme. C'est mon pote. Ouais. On va revenir avec Pascal. On était.
Et puis c'est un super boulot qu'ils font dans ce club. Hein. Ils s'appuient. Moi, j'adore quoi. Ils s'appuient sur la formation.
Il faut
tout remis en place. Ça va payer.
Ça commence déjà, comme il dit, à payer hein, au niveau des juniors premiers, des 15 ans.
Forcément, ils ont. Il y a 4 ou 5 ans, ils sont revenus avec un vrai projet en disant tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, bien, pas bien, allez, on s'en tape. Ils s'appuient sur d'anciens joueurs aussi.
Oui.
Ils ont gardé une âme vraiment carpentracienne. Quand tu vas au stade, tu croises beaucoup d'anciens joueurs. Mm-hmm. Tu croises des Franck Romano qui est toujours dans l'entourage du club. À l'école de rugby, tu vois des mecs comme Olivier Rostand. Et bon, après, c'est des mecs
mais
qui sont
supérieurement
intelligents, bien sûr. Et ça prend le temps. Jérôme a eu la patience de faire la saison l'an dernier avec 15-16 joueurs. C'était compliqué des fois. Mais là, voilà, il y a des gamins qui viennent. 17 ans.
Des bons gamins en plus. Ouais, c'est vrai qu'ils sont véloces hein, automatiquement. Ils ont leur jeunesse aussi. Hein, donc,
17 ans National 2, waouh.
Oui, c'est bien.
Ouais, non, c'est juste.
Mais quand tu vois jouer quand même les juniors qui sont premiers, c'est une Ils assurent, hein. C'est vraiment bonne équipe. Hein.
Ben, ils assurent d'autant plus que du coup, ils sont souvent dépouillés par l'équipe 1.
Et, malgré tout, ils sont premiers.
Ça veut dire que les cadets qui jouent en junior sont bons. Ça veut dire aussi que les minimes qui jouent en cadet, parce que chaque fois que tu en prends, que tu surclasses des gamins, ben, il faut surclasser dans les catégories inférieures, et il n'y a pas de trou d'air. Et voilà.
Mais ce sont les écoles.
Écoute, la transition, elle est toute trouvée. On parlait de la formation au Hand, où on disait qu'il n'y avait pas, juste pareil, là, pas de trou d'air depuis 30 ans, et c'est dû aussi aux décisions qui sont prises par la Fédé et par tout l'encadrement technique.
Oui, c'est ce qu'on appelle le parcours de performance, quoi, qui est bien rodé et qui, à mon avis, a été construit en se basant sur le scolaire et en relation avec le scolaire, en tout cas, et donc avec un encadrement de qualité. Et voilà, on a, pour 92, en fait, les JO, c'était vraiment les premiers résultats de l'équipe de France, et en fait il fallait remonter aux années 75 pour voir les premiers pôles espoirs. Donc on était passé de 2 entraînements semaine à 5 entraînements, voire 7 entraînements semaine. Donc voilà, il a fallu une dizaine d'années, enfin un peu plus, une quinzaine d'années pour finalement que ce travail-là paye, et il a payé à partir de 92, et beaucoup de nations nous envient l'organisation du parcours de formation de nos jeunes.
Tu veux dire que ce que nous on a interprété, nous spectateurs et suiveurs, on a interprété comme une génération spontanée. En
fait, non, pas du tout.
C'était un boulot monstrueux qui avait été mis en place 15 ans avant. Et,
oui, c'est la première, le premier pôle espoir, c'est Daniel Constantini qui l'a créé à Marseille en 73.
D'accord.
Et donc après, ça a fait des émules partout en France, hein, avec des cadres techniques d'État. Et donc sur les classes de lycée, seconde, première, terminale. Voilà. Et donc il fallait à la fois bien fonctionner à l'école et être bon sur le plan balistique, être capable de mener double projet de front. Et donc,
c'est aussi pour ça qu'on a vu Dan Baller capable de parler
à la
presse.
Oui,
des mecs qui avaient l'air un peu plus bulbés que des footballeurs, par exemple.
Je porterai pas.
Non, mais, je
pense qu'il y a aussi des footballeurs qui sont. Qui
majoritairement, quand on parle à des.
C'est un sport populaire, le foot, beaucoup plus que le handball, donc avec ses avantages et ses inconvénients. Bon, pour ce qui est du handball, donc je t'ai expliqué que le parcours de formation est vraiment lié au système scolaire. Donc la fédération a pris ça en main avec des cadres techniques d'État. Et ensuite, se sont créés pour l'après-terminale, pour l'après-bac, des centres de formation. Donc les clubs de haut niveau, du coup, ont créé leur propre centre de formation. Il y a autant de centres de formation en France qu'il y a de clubs de haut niveau. Première, voire deuxième division. Et du coup, ces gens-là s'entraînent 2 fois par jour. Donc forcément,
on progresse,
hein. Mais par contre, on sait aussi que 30% des jeunes qui sortent des pôles accèdent à un centre de formation. Seulement 30%. Et à l'issue des 3 ou 4 années de centre de formation, seulement 30% deviennent des joueurs de première division.
Ouais, tous ces joueurs qui se perdent en chemin intègrent des clubs comme Mazan, par exemple, et viennent faire de la formation, viennent apporter ce qu'ils ont pu apprendre dans les années précédentes. Mais j'imagine que Karl Bensono ou toi, par exemple, vous n'êtes pas arrivé là par hasard. Ben, il y a eu un parcours. Ben,
l'exemple est mauvais.
Non,
on n'est pas passé par les pôles espoirs. Nous, moi, c'était trop tôt.
D'accord.
Il y a par exemple dans le groupe Morgan Panquin qui est passé par le pôle espoir de Marseille et qui ensuite est allé au centre de formation de Toulon, qui n'a pas percé au plus haut niveau et qui est redescendu qui est revenu à Mazan. Donc voilà un exemple de jeunes qui ne percent pas au plus haut niveau et qui reviennent sur des niveaux intermédiaires comme le nôtre.
Comment vous organisez, parce que tu disais tout à l'heure on a
250
gamines dans le club.
Non, 250 licences compétitives.
D'accord. Voilà, donc comment vous organisez, parce que une seule salle finalement.
Ouais.
C'est compliqué.
Alors on a la chance de l'avoir du lundi au vendredi de 17h à point d'heure. et quasiment tous les mercredis après-midi à partir de 13h. Plus les week-ends. Donc,
mais c'était donc, toujours un problème récurrent, parce que ça, je me rappelle, quand il y a 30 ans, je faisais du hand Amazon, c'était déjà ce problème de plage horaire.
Manifestement, ouais. C'est pas un problème.
Non, maintenant,
non,
mais
ça passe. La preuve, on y arrive. Alors après, la difficulté, c'est qu'il y a d'autres sports qui aimeraient évoluer sur Mazan, qui aimeraient avoir des créneaux horaires, et là, c'est un petit peu difficile. Bon, on a toujours eu la chance de pouvoir faire ce qu'on avait envie de faire, parce qu'on avait, on était prioritaire, entre guillemets, sur les créneaux horaires, quoi. Bon.
Quand voilà, c'est qu'on fait une grande salle à Mazan, ou quand est-ce qu'on rajoute une autre salle à Mazan? Je sais que Mazan, c'est une ville ultra sportive, finalement.
Oui. Et,
ultra sportive, il y a des belles infrastructures. Le COSEC dans lequel vous évoluez, même si c'est pas la plus belle salle du monde, elle est fonctionnelle, mais elle est petite, elle est fonctionnelle, mais
elle est plus vraiment fonctionnelle à l'heure qu'il est. C'est une salle qui a 40 ans, qui était vraiment adaptée à la pratique du handball il y a 40 ans, et à l'échelle d'il y a 10 ans, mais qui aujourd'hui ne correspond plus aux exigences de la fédération. C'est le nombre de vestiaires, c'est le dégagement autour du terrain, c'est un espace pour accueillir des partenaires, hein, parce que si on veut devenir de plus en plus autonome, faut pouvoir avoir un club de partenaires qui soit au soutien de l'activité, enfin du club. Donc tout ça, là on est à côté de la plaque, et donc c'est vrai que, et puis ce COSEC a été créé quand il y avait 3000 habitants à Mazan, par un certain monsieur Léonce Barras. Aujourd'hui il y a 6000 habitants, donc effectivement le sport
est-ce qu'il y a
prend
un projet
une part de plus en plus importante, donc oui.
Est-ce qu'il y a un projet d'une autre salle, parce que par exemple il y a le dojo qui est sorti de terre là il y a quelques semaines, est-ce que vous pensez que vous allez bénéficier à terme d'une meilleure structure?
Je l'espère vivement. En tout cas, la présidente l'a dit et répété aux gens qui ont bien voulu lui prêter une oreille. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'indispensable pour continuer de franchir les paliers et de développer le sport Amazon tout court, et de permettre aux enfants de faire du sport dans de bonnes conditions, parce que actuellement les enfants font du sport à l'école dehors, sauf quand il pleut.
Pascal, on aurait pu parler encore 3 heures,
oui,
de formation et de. Je suis toujours, on s'est déjà rencontré de multiples reprises, mais je suis toujours admiratif de ce que font les handballeurs et de ce que fait ce sport pour continuer à se pérenniser dans le temps et d'avoir des bons résultats. Malheureusement, je crois que Théo veut rentrer à sa maison et.
Oui. On a plus de temps.
Non, je crois qu'on a plus de
donc
temps.
Donc on en reparlera à une autre occasion.
tu reviendras, on retrouvera encore des sujets, mais encore une fois, merci pour ta venue, merci Valérie.
Merci à vous.
Merci à toi.
Merci Théo. La semaine prochaine, un invité mystère.
Oui.
En ce moment, c'est tout le temps des invités.
Oui, je voulais le foot américain, mais pour l'instant, ils n'ont pas répondu. Donc
ouais, on va
essayer de les appeler.
On va vous trouver quelqu'un pour la semaine prochaine. Ouais. En tout cas, merci pour votre fidélité et à très bientôt. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes.
Bonsoir.